on se lance directement dans le passage, on va tout de suite perdre certains qui ne connaissent même pas le passage. C'est un... Ça serait triste de prêcher sur un texte et pour terminer les gens ne connaissent pas le texte. Ce qui est le plus important, c'est ce que dit la Bible. Donc nous allons lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 12. Donc dans le Nouveau Testament, vous avez les Évangiles, et puis Actes, Romains, et puis 1 Corinthiens. 1 Corinthiens est écrit comme une lettre, sans chapitre ni verset. J'ai appris cette semaine que celui qui avait divisé la Bible en versets était un pasteur. Et c'était au 16e siècle, je crois. Donc celui qui parlait de ça, il a dit, imaginez que la Bible a 70 ans, si elle a 70 ans, c'est qu'elle a été divisée en versets à l'âge de 62 ans. Donc ça ne fait pas très longtemps dans l'histoire de la Bible que nous avons cette division en versets. Et parfois, ça empêche la compréhension du texte, parce que maintenant on a tendance de lire un verset, puis... Un autre verset, comme si on recevait une lettre de sa femme ou de sa copine et on dit, mais je l'aime tellement que je lis une phrase par jour. Il n'y a pas trop de sens. Mais bon, ça nous aide aussi à pouvoir nous trouver dans les différentes parties de la Bible aussi. Donc, écoutez la parole de Dieu. Je vais lire, ça c'était la version second 21. 1 Corinthiens chapitre 12. En ce qui concerne les réalités spirituelles, les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est maudit ». Et personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est quatre. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues, mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Et l'on va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, enfin ce corps l'Église. Hein. Et nous avons tous bu à un seul esprit. 14. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En effet, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Ensuite, viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Il avait pensé. Non. Tous sont-ils prophètes? Il avait pensé. Non. Tous enseignent-ils? La réponse est non. Tous font-ils des miracles? La réponse est non. Tous sont-ils dedans des guérisons? La réponse est non. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Tous interprètent-ils? La réponse est non. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas dans l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement, mais nous prophétisons partiellement, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Je saute le verset 13 pour terminer. Maintenant, dans ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces trois, c'est l'amour. Recherchez l'amour. Voilà, ça c'est la parole de Dieu et l'introduction à ce que nous espérons voir ce soir. Je crois que le message central de ces trois chapitres, et je parle du 12, 13 et 14, est plutôt simple. Si vous regardez le chapitre 12, verset 11, il dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Alors, quel est le grand enseignement le message central de ces chapitres? Je vais vous les donner en trois propositions. La première, c'est qu'il y a quelqu'un à l'œuvre. C'est clair, n'est-ce pas, dans ces chapitres. Et c'est qui est à l'œuvre. Ici, c'est vraiment l'esprit. Hein, on parle beaucoup de l'esprit dans ces chapitres. C'est l'esprit qui. C'est l'esprit qui est à l'œuvre. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Le verbe est dans le temps présent, qui veut dire que c'est quelque chose qui continue encore à faire. Une chose est sûre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Nous croyons dans l'œuvre du Saint-Esprit, nous croyons dans la présence indispensable du Saint-Esprit, nous croyons dans la force souveraine et omnipotente du Saint-Esprit, nous louons, nous prions, nous adorons le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est qu'il y a un contexte dans lequel il œuvre, tout spécialement. Bien sûr, il travaille partout. Mais quel est le contexte dans lequel le Saint-Esprit travaille dans ce chapitre? C'est quoi le contexte? C'est le contexte de l'Église, où l'image ici, c'est l'Église en tant qu'un corps. Voilà. Il y a un contexte dans lequel le Saint-Esprit œuvre, et c'est le corps. Mais ça, chapitre 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Selon le verset, combien de ces chrétiens corinthiens étaient baptisés dans l'esprit? Il dit, nous avons tous. C'est ce baptême dans l'esprit qui forme ou qui crée un seul corps. Donc voici une vérité biblique. Si vous n'avez pas reçu le baptême dans l'esprit, vous ne faites pas partie du corps de Christ. Colossiens 1,18 dit que Jésus est la tête du corps qui est l'Église. Le corps est l'Église. Éphésiens 5,18 dit que Christ est en effet le sauveur de l'Église qui est son corps. Le corps est l'Église, l'Église est le corps. Le corps de Christ et l'Église de Christ sont la même chose. Donc si vous n'avez pas reçu le baptême du Saint-Esprit qui... Plus correctement, on pourrait dire le baptême dans le Saint-Esprit, vous ne faites pas partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais Actes 2, 47 dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Éphésiens 5, 25 nous dit que Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Éphésiens 5, 27 dit que c'est l'Église glorieuse que Christ va faire paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc si vous n'avez pas été baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne faites pas partie du corps, pas partie de l'Église, pas partie de cette femme de Christ qui va être présentée devant lui un jour, et donc vous n'allez pas au ciel. Romains 8, 9 dit même que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, tout comme Dieu le Père nous sort par le moyen de son Fils, Dieu le Fils nous invite par le moyen de son Esprit, son inséparable. Donc, il y a quelqu'un qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit, il y a un contexte dans lequel il œuvre, c'est le corps, et il y a un moyen par lequel il œuvre, c'est à travers quoi? Les membres, très bien. Un moyen par lequel il œuvre, c'est à travers les organes du corps, les membres du corps, qui sont comparés à qui, en fait? Des personnes, n'est-ce pas? Très bien. Regardez verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc le Saint-Esprit œuvre, il opère, il travaille à travers les dons. Mais ces dons sont distribués en chacun en particulier comme il veut. Personne n'a tous les dons. Personne n'a aucun don. Et ces chacun sont, selon le verset qui suit, les membres du corps. Et on a lu, dans ce qui suit, il y a ce fusionnement, ce rapprochement entre le don que l'Esprit donne et le membre du corps à lequel il le donne. Et c'est l'idée devient une seule. Il donne un don, mais après c'est la personne elle-même qui devient le don. prenez le rapprochement de ces idées. Donc au lieu de dire, par exemple, regardez le verset 21. Celui qui a le don de voir ne peut pas dire à celui qui a le don de tenir, je n'ai pas besoin de ton don, et plutôt l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, parce que le don et la personne qui a le don est extrêmement lié. Voyez-vous, il y a l'amalgame ici qui est fait entre le don que le Saint-Esprit donne et le membre qui a le don. Donc, regardez le verset 15 par exemple. Au lieu de dire que celui qui a le don de la miséricorde, qui fait partie d'une liste de dons de l'Esprit, donnée en Romains 12, disait, bon, parce que je n'ai pas le don de parler d'autres langues, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Il dit plutôt que le pied disait, je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait? Il donne des dons aux membres. Chaque membre est équipé individuellement par le Saint-Esprit, mais le membre lui-même devient un don à l'Église. Vous n'avez jamais pensé de vous-même comme ça? Vous êtes un don à l'Église. Dieu vous a doué d'une certaine façon que vous êtes maintenant, par sa grâce, un don à l'Église. Et donc il dit, regardez le verset 19, au lieu de dire si tous avaient le même don, il dit, bon, si tous étaient un seul membre, vous serez le corps. Si tout le monde avait le même don, vous serez le corps, il n'y aurait que le corps. Mais vous dites peut-être, mais il y a quand même certains dons qui sont plus spectaculaires que d'autres. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Certainement, et c'est exactement ça qui a causé tout le problème dans cette église à Corinthe. C'était une église qui était divisée par rapport à leurs enseignants. Vous rappelez au chapitre 1, certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, je suis de Jésus-Christ. Et c'était une église qui était divisée dans le repas du Seigneur. Il dit même au chapitre précédent que lors de l'ordre du repas du Seigneur, il y avait certains qui repartaient toujours ayant faim et d'autres qui étaient libres. Mais ce n'est donc pas surprenant de voir qu'elle est utilisée par rapport aux dons que l'Esprit donnait. Les membres qui avaient certains dons tape à l'œil, c'est-à-dire les dons plutôt bling-bling, par rapport aux autres, étaient extrêmement valorisés par l'Église, et je crois qu'ils se valorisaient eux-mêmes, tandis que d'autres étaient traités comme inutiles et superflus. Donc le grand message à retenir, c'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'œuvre, c'est l'Esprit, il y a un contexte dans lequel il œuvre, c'est le corps, il y a un moyen par lequel il œuvre, c'est les membres. Et l'application est plutôt simple. Si nous désirons que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans notre Église, soit pleinement à l'œuvre dans cette Assemblée, nous devons reconnaître que nous avons besoin de tous les dons qu'il donne, c'est-à-dire de tous les membres, c'est-à-dire de toutes les personnes qu'il nous donne. Et il dit verset 22, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles. Vous voyez ça? Vous pourriez le dire ainsi. Les membres qui sont dotés de dons que nous estimons les moins importants et qui n'ont aucun don spectaculaire, ils sont quand même quoi? Qu'est-ce qu'il dit à la fin du verset 22? Ils sont nécessaires. Même ceux qui ont des dons n'est plus faible. La réalité donc de l'œuvre du Saint-Esprit est qu'il est véritablement et actuellement à l'œuvre, il travaille avec puissance, mais il œuvre dans l'Église à travers les membres les plus faibles et par des moyens le moins spectaculaires. Par des moyens que nous, on n'est pas nécessaire. Et le grand problème de l'église de Corinthe était qu'elle cherchait l'œuvre du Saint-Esprit, c'est bien ceci, seulement à travers le spectaculaire. Et elle était totalement aveugle, tellement aveugle qu'elle écartait même certains membres du corps, et donc certains dons de l'Esprit nécessaires au corps, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas spectaculaires. Et je crois que le grand problème de l'église de Corinthe est le grand problème d'aujourd'hui. Il y a des prédicateurs dans des églises évangéliques qui vont vous regarder, et si vous n'avez pas un don spectaculaire, comme par exemple leur version de parler en langue, ils vont vous dire, vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Et quelle est l'implication? Vous êtes inutile, vous êtes superflu au corps parce que vous n'êtes pas doté d'un don spectaculaire. Et le nombre de vrais chrétiens qui souffrent à cause de ces faux enseignements et qui cherchent anxieusement des dons qu'ils n'ont pas reçus ou être des membres du corps qui ne seront jamais est tout simplement incalculable. Certains ont tellement tordu ce passage qu'ils sont en train de dire aux pieds « Vous avez besoin d'être la bouche !» Tout le monde doit avoir le don de parler en langue. « Vous avez besoin d'être la bouche !» Ils vont dire à la main. Vous aussi, vous avez besoin d'être la bouche. Et ils vont dire à la tête, vous aussi, vous avez besoin d'être la bouche. Tout le monde doit être la bouche, sinon on n'a pas besoin de vous. Et vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et vous n'êtes pas spirituel parce que vous n'êtes pas encore la bouche. Voilà, c'est triste. Mais quand vous voyez, même au premier siècle, quand il y avait vraiment ce don de parler d'autres langues que des vraies langues, mais que le Saint-Esprit donnait ce don, pas tout le monde, même à Corinthe, avait ce don. Il semble même que c'était un groupe minoritaire dans l'Église, que quelques-uns, mais qui se faisaient valoir parce qu'ils avaient ce don, et les autres ne l'avaient pas. Donc, quelles sont les réalités de ce passage? Alors là, je viens donc à l'enseignement de ce passage. L'importance, d'abord, d'une connaissance qui soit partagé par toute l'Église. L'importance d'une connaissance qui soit partagée par toute l'Église. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels ou les choses spirituelles, il dit, quelle est la première chose qu'il dit? Je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Il dit la même chose dans une façon positive. Je veux que vous sachiez, que vous soyez instruits, que vous connaissiez. Et après, suit, et dans ces trois versets, il y a, j'ai oublié maintenant combien de versets, mais j'ai regardé après, les chapitres 12, 13 et 14 sont plus longs que 10 livres dans la Bible. C'est-à-dire, il y a 10 livres individuels dans la Bible qui sont plus courts que les chapitres 12, 13 et 14 réunis. Donc, c'est une. Quelque chose qu'il ne faut pas être ignorant. Puis il dit, il y a importance d'identifier la source de la démonstration de puissance. C'est la première chose après qu'il dit, je ne veux pas que vous soyez ignorant, il va s'attaquer à la source de la démonstration de puissance. Et là-dessus, il va dire deux choses. Il va d'abord dire, il va d'abord parler d'une réalité d'autres sources de puissance. Faut dire, quand on parle dans ce domaine de la puissance de l'esprit, il faut identifier la source de cette puissance. Et la première chose qu'il aborde, c'est la réalité d'autres sources de puissance. Regardez le verset 2. Première chose qu'il va aborder. Vous savez que lorsque vous étiez païens, c'est-à-dire avant de venir à Christ, certainement ils n'avaient même pas à l'époque entendu le nom de Jésus-Christ, lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Regardez ce verbe, c'est le verbe passif qui veut dire qu'il y avait une force extérieure qui agissait sur eux. Vous étiez, on peut traduire, irrésistiblement entraînés vers des idoles muettes. Vous savez ça, Eddie. Avant votre conversion, vous savez que vous étiez entraînés. Il y a une force extérieure qui agissait sur vous. Et ce que Paul fait dans ce verset, de nous rappeler qu'il n'y a pas que le Saint-Esprit qui inspire. S'il n'est pas la seule force dans le monde. Il dit, même avant d'être sauvé, vous avez connu une puissance spirituelle. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Notez le verset 2 encore. Lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner, cette force extérieure qui agissait sur eux. Et c'est intéressant qu'on va parler des dons spirituels, que la première chose à laquelle il va attirer notre attention, c'est que, attention, il y a des forces spirituelles qui ne viennent pas du Saint-Esprit. C'est intéressant, non, qu'il commence comme ça. Mais on se dit, est-ce que cette puissance peut agir au sein même de l'Église? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette puissance qui agissait en eux avant leur conversion peut encore agir au sein de l'Église de Jésus-Christ? Oui ou non? Il y a un exemple très frappant de nul autre que l'apôtre Pierre qui dit une chose à Jésus. Et Jésus lui dit, c'est Dieu qui t'a révélé cette vérité. Parce que Pierre vient de lui dire que tu es le Christ. Il dit, c'est pas l'homme qui t'a révélé, c'est Dieu qui t'a révélé. Et quelques versets plus tard, dans le même chapitre, il regarde Pierre et il dit, arrière de moi, Satan. Et là, Pierre, c'est Dieu qui te révèle ça, arrière de moi, Satan. Certainement, il y a des puissances qui agissent. Encore dans l'Église, écoutez les paroles de Pierre lui-même, un des premiers membres de l'Église à Jérusalem. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit attention, parle aux chrétiens ici. On ne veut pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car ni nous n'ignorons pas ses desseins. En Éphésiens 6, 11, il parle des ruses des diables, du diable. Même au sein de l'Église, Satan a toujours ses ruses. Et donc, il veut leur parler donc du danger, ça c'est la deuxième chose. Du danger d'une séduction par des démonstrations de puissance. D'abord, il y a une réalité qui est d'autres sources de puissance, c'est pas que le Saint-Esprit. Maintenant, ça, c'est le danger. Vous pouvez, en tant que chrétien, être séduit par ces démonstrations de puissance. Regardez verset 3. Il dit, c'est pourquoi je vous déclare. Notez le lien qu'il fait avec leur expérience passée et le sujet des dons spirituels. Étant donné que vous-même, vous avez connu des puissances qui vous ont entraîné vers l'idolâtrie, je peux donc vous déclarer que personne, s'il ne parle par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que si cette parole trouve sa source dans la puissance de l'Esprit, il ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas encore l'idée de la source de l'inspiration de cette confession, si ce n'est par le Saint-Esprit. Et le fait qu'il dit, en tant qu'apôtre, je vous déclare, suggère que ce fait n'était pas évident aux Corinthiens. C'est-à-dire que je crois qu'ils étaient prêts à identifier toute démonstration de force comme venant de Dieu. Même quand cette démonstration de force entraînait les gens vers l'erreur ou exprimait une hérésie telle que Jésus est anathème. Vous savez, nous avons encore dans nos jours beaucoup de personnes qui sont prêtes à dire « J'ai vu un miracle. J'ai vu une démonstration de force spirituelle. Donc, je conclus que c'est forcément preuve de la présence et de la puissance de Dieu. » Des gens qui sont prêts à faire cela. Paul leur dit « Avant même d'avoir connu Christ, vous avez connu dans vos vies des forces spirituelles. » C'est-à-dire, ils savaient par expérience qu'il y avait des forces spirituelles qui les entraînaient irrésistiblement vers l'erreur. Et Paul dit donc, en parlant de ces dons spirituels, voici la première chose à ne pas ignorer, c'est une chose que vous savez par vos propres expériences, que vous avez vécues lorsque vous étiez encore païen, c'est qu'on peut être irrésistiblement entraîné dans la mauvaise direction par des forces spirituelles. Donc, pour résumer le verset 3, je vais le résumer ici. Toute démonstration de force qui entraîne une personne dans la mauvaise direction, vers des idoles, par exemple, dont il parle au verset 2, ou qui exprime une hérésie, ne vient pas de Dieu, même si elle est incroyable. La puissance de Dieu pousse toujours une personne à se soumettre à la seigneurie de Dieu. Si c'est véritablement par l'Esprit de Dieu qu'une personne parle ou agit ou fait des miracles ou parle en langue, elle ne peut que nous entraîner vers Dieu. Elle ne peut pas nous entraîner dans l'erreur. Elle ne peut pas exprimer une hérésie. C'est carrément impossible. Donc il dit attention au ruse du diable, attention au danger d'une séduction par des démonstrations de puissance. Alors, quelles sont les ruses du diable? Il en a plein, n'est-ce pas? Il en a plein. Mais je veux vous montrer une que Satan a utilisée dans cette église de Corinthe. Je trouve que c'est une ruse que nous ne pouvons pas ignorer, car elle est intimement liée à ces dons de l'esprit. Et la question ici, c'est le danger d'une séduction par des démonstrations de puissance. Est-ce que cela arrivait au premier siècle? Est-ce qu'il y avait ce danger au premier siècle? Oui, et pour vous montrer cela, nous allons prendre le premier des dons en temps et en importance que Christ a donné à l'Église. C'est quoi le premier, le plus important des dons que Christ a donné à l'Église? À part lui-même et à part le Saint-Esprit. C'est une très bonne réponse. Mais après cela. Regardez le verset 28. Regardez le verset 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, quoi? Des apôtres. Deuxièmement, des prophètes, après des docteurs. Ceux qui font les miracles, ceux qui ont le don de guérir, etc. Ceux qui ont le don de parler diverses langues, c'est la façon de dire, hein, parler diverses langues. Après, suit une question, une série de questions rhétoriques. Est-ce que tous sont des apôtres, etc. Mais en tout cas, je reviens à ce premier des dons. Il a établi premièrement des apôtres. C'est dans la même liste que le don de parler diverses langues. Donc ça fait ceci, c'est un véritable don qui est donné à l'Église. Éphésiens 4, 11 disent que Christ a donné les uns comme apôtres. Alors, sachant que Satan est rusé, on est d'accord, que pensez-vous qu'il va tenter de faire aux Corinthiens avec ses dons? Pour une de ces ruses, trouvez avec moi, je n'ai pas mis la référence, mais je vais le verset, trouvez avec moi 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11. Donc on est en 1 Corinthiens, on va 2 Corinthiens, chapitre 11, vous y êtes, et le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, donc on est bel et bien dans le contexte des ruses du diable, n'est-ce pas? Vous y êtes, hein? 2 Corinthiens 11, 3. Vous vous rappelez ce qui s'est passé lors de la création? Le serpent a séduit Ève par une ruse. Et il dit, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que nous avons reçu, ou un autre évangile que celui que nous avons embrassé, qu'est-ce qui se passe dans cette église? Vous le supportez fort bien. Vous accueillez ces autres esprits, ces autres évangiles. Là déjà, il y a de quoi nous instruire. La présence de ces dons miraculeux ne les protégeait pas de l'erreur. N'est-ce pas? Vous avez tous ces dents, mais ils étaient séduits. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est venu leur prêcher notre Jésus, à notre esprit, à notre évangile. Regardez le verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces c'est l'apôtre par excellence. Il y a une tradition qui dit quoi?
Super.
C'est super apôtre. Bien sûr. Cette image. C'est une appellation en fait ironique de ces hommes qui étaient apparemment, selon le verset 6, en comparaison avec l'apôtre Paul, des brillants orateurs. C'était des super apôtres. Regardez le verset 13, 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de quoi? Ils sont de faux apôtres. Ils sont des ouvriers trompeurs, mais ils sont déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez ce qui se passe? Jésus donne de vrais apôtres, n'est-ce pas? Paul est un. Ceux-ci sont de faux apôtres qui les séduisent. Mais rappelez-vous qu'au verset 3, il le compare à la séduction que le serpent a faite à Ève. Donc derrière ces faux apôtres, ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, Paul voit la présence de qui en fait? De Satan, n'est-ce pas? C'est Satan qui utilise ces faux apôtres. Du serpent. Donc vous voyez les ruses du diable ici? Il prend un faux, un trompeur, et il le déguise dans le premier des dons que l'Esprit donne à l'Église. Il le déguise dans un don de l'Esprit à l'Église. Il imite le vrai pour entraîner dans l'erreur. Alors, question, êtes-vous surpris par cette tactique de Satan? Est-ce que ça vous étonne? Qui est choqué par ça? Paul n'est pas désolé. Regardez le prochain verset, 2 Corinthiens 11, 14. Cela n'est pas quoi? Cela n'est pas étonnant. Lui, il n'est pas surpris. Pourquoi il n'est pas surpris? Parce qu'il dit que Satan lui-même, quoi? Satan lui-même se déguise en ange lunaire. C'est-à-dire, c'est son modus operandi, c'est son mode opératoire. Quand Satan sort de chez lui, il sort toujours comment? Toujours déguisé. Il sort toujours déguisé. Personne n'a vu Satan comme il est vraiment. C'est sa manière d'opérer. Il ne sort pas sans déguisement. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ses ministres, c'est-à-dire les ministres de Satan en fait, aussi se déguisent en ministres de justice, leur fin sera selon leurs œuvres. Donc ces faux prophètes sont appelés au verset 15 des ministres de Satan. On trouve le même mot traduit ministre, je vais vous le lire, ne cherchez pas, mais en 1 Corinthiens 3, verset 5, il dit « Qu'est-ce donc Apollos, qu'est-ce que donc Paul, ce sont des ministres ?» Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Donc, Christ a fait ministre, il a fait serviteur à Corinth. Mais devinez quoi? Satan derrière, il a fait ministre à Corinth aussi. Il a fait serviteur de faux apôtres qui font partie. Et vous savez, c'est la même chose dans la région bordelaise. Christ a fait ministre, Satan a fait ministre. Et il n'est pas étrange que les ministres de Satan se déguisent en ministres de justice à Bordeaux. Satan n'a pas changé. Paul serait étonné si ce n'était pas le cas, en fait. Satan ne fait pas ça ici, mais qu'est-ce qui se passe? Donc voici le mode opératoire de Satan depuis le début. Dieu crée une création merveilleuse. Satan s'empare d'une partie de cette création, en l'occurrence un serpent, et il... Par cette belle création, il séduit l'œuvre. Christ donne des apôtres pour poser le fondement de l'Église. Satan envoie des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ pour corrompre les pensées de ces églises et les détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Vous savez, dès qu'il y a le vrai, attention, tout de suite, derrière, va arriver le faux. Vous ne pouvez pas être dans une ville qui a une importance et qui a une vraie église, qu'il n'y aura pas de faux, de fausse église. Voilà pour le don des apôtres. regardant des autres dents, revenons à 1 Corinthiens 12 et verset 28, il dit Dieu a établi dans, premièrement des apôtres, et nous avons vu que Satan a sa contrefaçon de ce don. Deuxièmement, des quoi? Prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont des dons de miracle. Alors, croyez-vous que Satan peut créer des faux prophètes? Oui ou non? Oui, c'est dans la Bible. Hein? Croyez-vous qu'il peut introduire des faux docteurs, des docteurs trompeurs dans l'Église? Croyez-vous qu'il peut faire des faux faiseurs des miracles? Oui ou non? Oui, est-ce possible d'imaginer l'audace de Satan de même présenter des faux Christ, des faux Messie? Jésus lui-même en parle. Regardez ce verset en Marc chapitre 13, verset 22 et 23. Jésus qui parle et il dit, il s'élèvera de faux Christ et de faux quoi? Prophètes. Et ces faux prophètes feront des prodiges et des miracles. Ce seront des faux faiseurs de miracles. Et quel est le but? C'est intéressant que c'est le même but qu'avec Ève au tout début. C'est le même qu'avec l'église de Corinthe. C'est pour quoi? Séduire. C'est ça le but derrière. C'est ça le danger. C'est même pour séduire les élus, les vrais chrétiens, si c'était possible. Donc Jésus dit, soyez sur vos gardes, je vous ai annoncé d'avance, tout annoncé d'avance. Qu'est-ce qu'il nous a annoncé d'avance? Qu'ils feront des prodiges et des miracles. Le danger, donc, est le danger d'une séduction. Ça, c'est le danger. Le moyen choisi par le diable est d'imiter les bons dons que Dieu, le Christ, l'Esprit donne à son Église. Il n'y a pas de don que le serpent n'a pas contrefait. Il y a toujours devant nous donc ce danger de la séduction. Voilà c'est pourquoi c'est tellement important que la connaissance de ces choses soit partagée par toute l'Église, parce qu'une démonstration de force spirituelle n'est pas une preuve que cette force vient du Saint-Esprit. Alors, selon celui qui a été pendant plusieurs années le président de l'association Top Chrétien, vous connaissez? Je ne sais pas si vous êtes des top chrétiens ou non. Mais il dit ceci, je cite, « L'obstacle majeur à la réception du baptême, mais pas pour les chrétiens, parce que c'est quelque chose qui vient par la suite, le baptême dans le Saint-Esprit consiste en un tel désir d'authenticité. » Il dit le plus grand danger, c'est un désir d'authenticité. C'est un tel désir qu'on est paralysé par la crainte de produire soi-même se parler en langue. Or, je le dis souvent, la crainte est l'opposé à la foi. Nous n'avons pas à craindre une quelconque contrefaçon. Celui qui baptise de l'Esprit nous l'a promis. Nous n'avons pas à craindre une quelconque contrefaçon. Ce qu'il dit. Mais moi, je vous dis, si Satan peut contrefaire un apôtre, s'il peut contrefaire le don de la prophétie, s'il peut contrefaire le don des pasteurs-docteurs, s'il peut contrefaire le don des miracles, comment pouvons-nous dire que nous n'avons pas besoin de craindre une quelconque contrefaçon de n'importe quel don donné par le Saint-Esprit? Tous les dons ont été contrefaits. Il y a encore des faux apôtres, il y a encore de nos jours des faux prophètes, il y a encore des faux docteurs, de faux faiseurs de miracles, des faux parleurs en langue. Il y a des gens qui pensent que dès qu'il y a une démonstration spirituelle de force, c'est forcément l'action du Saint-Esprit. Non, dit l'apôtre. Depuis le début, depuis l'époque de Ève, il y a eu des charlatans. Donc il faut reconnaître la réalité de notre source de puissance. Il faut aussi reconnaître le danger d'une séduction par ces puissances. Et il faut savoir comment distinguer. Alors, avant de regarder ça, j'ai encore une illustration. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de nos jours des forces miraculeuses qui peuvent entraîner les gens vers des idoles muette, nulle. Je vous cite un article pris du site Radio Notre-Dame à Paris. Ça parle, bon, je ne vais pas tout lire, mais ça parle du pape Jean-Paul II, qui maintenant a été canonisé comme un saint. Mais vous savez, pour devenir saint, il fallait qu'il fasse un miracle. Or, pendant sa vie, il n'a fait aucun miracle. Mais devinez quoi? Il en a fait deux depuis sa mort. Et la première est une Française, hein, vous pouvez lire ça sur Internet. La deuxième, c'est une Costaricaine. C'est survenu le 1er mai 2011, donc ça fait plus de 6 ans après la mort du pape. La femme, son mari et leurs 5 enfants ont prié le pape des francs de la guérir. Voici la prière du mari. Saint Père, je t'en prie, aide-moi et intercède auprès de Dieu pour la guérison de mon épouse. Alors, le 5 juillet 2013, le pape François a certifié que la guérison miraculeuse de cette femme du Costa Rica a bien eu lieu grâce, écoutez ça, grâce à l'intercession de Jean-Paul II. Cela a donc ouvert la voie pour qu'il puisse être canonisé, ce qu'il a été. Il est maintenant un saint selon l'Église romaine, qui veut dire que des centaines de milliers, même des millions de soi-disant chrétiens vont maintenant le vénérer et le prier, parce qu'il est maintenant un saint. Il a été dit de l'Église romaine qu'elle est la plus charismatique, en fait, de toutes les dénominations dites chrétiennes. Parce que la course au miracle et la quête des dons miraculeux est en fait un phénomène relativement récent dans le protestantisme. Ça existait depuis longtemps, au Moyen-Âge, même Marie apparaît, guérit, etc., dans l'Église catholique, mais dans l'Église protestante, on n'avait pas ça lors de la Réforme. Et l'Église dite pentecôtiste date du début du XXe siècle, mais les pratiques sont restées très minoritaires jusque vers 1960. Ça ne fait pas très longtemps. Et quelques années plus tard, c'était en 1967, ce qu'on appelle le renouveau charismatique catholique a commencé, qui s'étend aujourd'hui à 230 pays dans le monde, près de 160 millions de catholiques charismatiques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le 1er juin 2014, ça ne fait pas très longtemps, le pape François était l'invité spécial d'une rencontre de 52 000 charismatiques catholiques de 55 pays différents réunis à Rome. Le pape s'est agenouillé sur l'estrade pendant que la foule, les mains levées en l'air, ont prié pour lui. Beaucoup dans des langues inconnues, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment la prière en langue. Puis lui-même, il a levé les mains en l'air pour chanter avec eux. Et il les a invités à venir au Vatican en 2017 pour fêter les 50 ans du mouvement charismatique catholique romain. Mais ce qui est intéressant, on voit qu'à l'intérieur de l'Église romaine, on admet que le rapprochement du pape au mouvement charismatique, parce qu'il est appelé un pape charismatique, n'est pas sans arrière-pensée. Selon un revue catholique indépendant, donc ça c'est un catholique qui dit ceci, écoutez, le défi lancé à l'Église catholique par la croissance des églises évangéliques est bien un défi à relever par le pape François. Le renouveau charismatique est un atout pour l'Église catholique, car ses membres professent la même doctrine que les pentecôtistes, baptême par esprit, les ministères autoproclamés de guérison, de délivrance, d'intercession. Et puis continue, il dit ceci, l'apport financier du renouveau charismatique n'est pas non plus à dénigrer. C'est-à-dire que ces catholiques charismatiques rapportent beaucoup d'argent, en fait, à l'Église romaine. Mais il est clair que la doctrine catholique est le prix à payer pour la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire, une chose sur laquelle le pape insiste, c'est que vous gardez la doctrine romaine. Sinon, il faut faire comme vous voulez. Mais la quête des miracles dans l'Église catholique est très ancienne. J'ai été 3 fois à Lourdes, vous avez peut-être été aussi vous-même. À ce jour, 69 guérisons ont reçu le statut de guérison miraculeuse par Rome. La dernière a été reconnue en 2013. Mais il y a plus de 7000 dossiers de personnes qui affirment avoir été guéries à Lourdes. C'est beaucoup. Selon le Parisien, il y a toujours plus de 6 millions de pèlerins qui visitent Lourdes chaque année. On est à la recherche des miracles, des démonstrations de force. Et lors de cette réunion catholique charismatique avec le pape, ces gens, on dirait des églises évangéliques, en fait, la façon qu'ils chantaient, la façon qu'ils priaient en langue. Mais on le voit dans les photos, vous pouvez voir ça sur Internet, sur le côté de l'estrade, personne n'en a parlé, mais on ne peut pas ne pas le voir, sur l'estrade, à droite, devine ce qu'il y a. Une grosse statue de la Vierge Marie. Il y a des gens qui pensent que dès qu'il y a une démonstration surnaturelle de force spirituelle, c'est forcément l'action du Saint-Esprit, que tout miracle est forcément de Dieu et nous conduit vers vous. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il y a encore des forces de nos jours, miraculeusement, mais qui peuvent entraîner des gens vers des idoles muettes? Oui, et ces forces sont à l'œuvre. Donc il y a la réalité d'autres sources, il y a le danger d'une séduction par les démonstrations de puissance, et puis la question naturelle donc à se poser, comment évaluer, jauger les dons spirituels, comment savoir s'ils sont de Dieu ou non, comment exercer le discernement dans ce domaine. Alors le livre d'un Jean est bien connu pour le fait qu'il nous donne des tests. Ne lisez pas, je vous mets la référence ici. Ouais, c'est la fin de mon... Pardon, je vais bien vous trouver si pas quoi. L'entracte ici, hein. Pour vous donner... Qu'est-ce qui se passe ici? Ok, 1 Jean 5, 13. Parce que 1 Jean nous donne des tests. Hein. Il dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et que vous croyez au nom du Fils de Dieu. On n'est pas là pour parler d'1 Jean, mais dans la lettre, nous trouvons 3 tests. Ces tests ne sont pas la base de notre salut, mais ce sont des indices que nous sommes bien des disciples de Jésus-Christ. Et ce sont ce test-ci, je vous les donne. Il y a d'abord le test théologique. Est-ce que je crois dans le Fils de Dieu? Il va parler, celui qui dit que Jésus est ainsi et de Dieu, celui qui n'est pas d'accord n'est pas de Dieu. Puis il y a le test social. Est-ce que j'aime les enfants de Dieu? C'est-à-dire celui qui n'aime pas son prochain n'est pas de Dieu. Et puis, il y a le test moral, est-ce que j'obéis au commandement de Dieu? C'est-à-dire, celui qui aime Dieu fait quoi? Il garde ses commandements. Et ça se répète plusieurs fois pendant le livre d'1 Jean. Ce résumé n'est pas le mien, mais si vous connaissez 1 Jean, je crois que vous serez d'accord que cela résume bien ce qui est dit dans la lettre. Et moi, je pense que nous trouvons les mêmes tests par rapport aux dons spirituels. Et donc c'est ce que j'aimerais faire maintenant. Je vais prendre ces 3 tests et évaluer les dons spirituels à partir de ces 3 tests. Le test théologique, le test social d'amour et le test moral, ce qui est d'obéissance. Donc ça je peux vous donner après. Donc on arrive donc au moyen d'identifier la source de la puissance. Et la première chose qui nous est donnée ici, le premier test théologique, c'est la doctrine de la cohérence, de la cohésion, on pourrait dire de l'homogénéité de la foi chrétienne avec la puissance divine. C'est-à-dire, il y a une cohérence entre la puissance divine et la doctrine de Jésus-Christ. Et pour cela, je vous invite à reprendre 1 Corinthiens 12 et verset 3. Oui, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il ne parle par l'Esprit, ne dit Jésus est anathème, et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est 1 Corinthiens 12 et verset 3. Ici, il y a une déclaration apostolique que tout ce que opère ou fait le Père, le Fils ou le Saint-Esprit est homogène à la foi chrétienne. Il y a une cohérence, on parlait de ça hier, de tout ce que Christ fait, mais là il y a une cohérence, une cohésion, une uniformité d'un tout entre ce que Dieu fait et ce que Dieu dit. Il ne faut pas avoir de contradiction. Regardez la deuxième partie du verset 3. Et puis j'ai une question à vous poser. Personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est un test doctrinal, n'est-ce pas? Il doit dire que Jésus est Seigneur. Mais croyez-vous, ça c'est la question, croyez-vous que ce soit le seul test doctrinal? Oui ou non? C'est-à-dire, si quelqu'un dit Jésus est le Seigneur, son ministère est forcément légitime, et tout ce qu'il fait vient du Saint-Esprit. Après tout, il dit, hein, personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Bon, je pense que déjà nous savons qu'il y a une certaine sincérité qui est présumée ici, parce que les démons le croient, n'est-ce pas? Les démons croient que Jésus est le Seigneur, et ils tremblent. Mais présumons qu'il y a une certaine sincérité dans la presse, croyez-vous que ce soit le seul critère doctrinal nécessaire pour savoir si un don ou un ministère vient véritablement du Saint-Esprit? Non. Et comment pouvons-nous savoir? Je peux vous montrer dans la Bible. Il faut savoir que cette lettre a été écrite vers l'année 55. 57 peut-être, après Jésus-Christ. Si Jésus est mort en 30, 33, on est 20 ans après cela. Il y a très peu de chrétiens dans le monde. Il n'y a pas encore beaucoup d'hérésies chrétiennes. Parce qu'il y a très peu de chrétiens. Le premier credo était probablement celui-ci. Jésus est Seigneur. Une référence à ça, au fait qu'il est Dieu aussi. Rappelez-vous que nous sommes dans un contexte, selon 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Donc, dans un tel contexte, la prédication est juste une folie, un scandale. Si quelqu'un vient à Corinthe et il dit Jésus, et Seigneur, je le crois de tout cœur, c'est forcément un chrétien. C'est un appel à sa divinité. Tous les hommes rejetaient la divinité de Jésus-Christ. Mais les années ont passé. De plus en plus de faux enseignants, donc de fausses doctrines, ont pénétré l'Église. Et presque 40 ans plus tard, lorsque l'apôtre Jean va écrire à des églises où il se trouvait des gens qui disaient avec conviction Jésus est Seigneur, c'est-à-dire ils acceptaient la divinité de Christ, mais il y avait dans cette église des personnes qui niaient son humanité, le fait qu'il soit humain. C'est un peu le problème contraire. Et dans ce nouveau contexte, Jean dit, regardez ce verset, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, qu'il est Seigneur, non, c'est pas ça, mais qu'il est venu, quoi, en chair et de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. » Il va dire dans sa deuxième lettre, regardez ce verset, « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ, quoi, est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, encore là, le problème de la séduction, et l'Antichrist. » Donc là, on a deux choses différentes. Paul, dans l'année 55, il dit « Personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Il ne fait aucune mention de son humanité. Et Jean dit vers l'année 95, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu et il ne fait aucune mention de sa divinité. Pourquoi la différence? Parce que le sujet débattu était différent. à Corinthe, c'était, ça c'était le problème. Et lorsque Jean écrit, c'était un autre problème. En tout cas, c'est le problème qui est d'actualité, si vous voulez. C'est comme l'a très bien dit Luther. Il a dit, si j'expose bien haut et le plus simplement possible tous les aspects de la vérité de Dieu, sauf justement tel petit point que le monde et le diable attaquent en ce moment, bien je ne confesse pas Christ. Bien que j'en fasse profession, ouvertement. Pourquoi? Parce que c'est là où est la bataille, que la bataille fait rage, que se prouve la fidélité du soldat. Rester ailleurs, en étant absent justement là, ressemble à une fuite honteuse. Donc, il n'y a pas qu'une seule doctrine, en fait, c'est toute la Bible, n'est-ce pas? Mais c'est surtout au point qu'il est débattu, surtout sur le point où les séducteurs essaient d'attirer les gens. On peut dire, mais on est d'accord sur toutes les autres choses. Non, mais c'est là où la séduction arrive qu'il faut prendre sa position pour la Bible et pour Christ. C'est donc tout le conseil de Dieu. Mais quelqu'un pourrait dire, mais personne n'est correct sur tous les points tout le temps. Parce que tu es en train de dire, Timothée, qu'une seule faute doctrinale signifie que la personne qui l'enseigne n'est pas sauvée et tout ce qu'elle fait vient du diable. Non. Et je dis d'ailleurs, je fais très attention d'attribuer au diable ces choses. La Bible elle-même nous enseigne à prioriser les doctrines. Est-ce que vous savez ça? Elle nous enseigne à prioriser les doctrines. Je veux vous montrer cela dans la lettre aux Corinthiens. C'est 1 Corinthiens, on était au chapitre 12. Regardez verset 15. Le chapitre 15, pardon. Je trouve que c'est très important pour notre compréhension de la doctrine et pour pouvoir évaluer. 1 Corinthiens 15, verset 1. Paul parle à ses Corinthiens et dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que vous avez annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes, quoi? Sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Notez qu'il y a des vérités par lesquelles vous êtes sauvés. Ça, c'est l'évangile. Et Galates 1, 8 et 9 dit, mais si nous-mêmes, un véritable apôtre, ou si un ange du ciel annonce un évangile, c'est écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit quoi? Un Corinthiens 15, verset 3 à 5, nous résume ce que c'est l'évangile qui nous sauve. Regardez le verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il est apparu à Cephas, puis aux douze, etc. Mais vous savez que pas toute doctrine a la capacité de vous sauver, si vous le recevez, ni de vous damner si vous le rejetez. Heureusement. Plus tard dans le même chapitre, regardez le verset 12. 1 Corinthiens 15, 12, il dit, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Apparemment, il y avait des vrais chrétiens qui niaient la résurrection du corps. Et il dit, regardez verset 13, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Vous savez ce qu'il est en train de dire? Heureusement que vous avez tort. Parce que si vous avez raison, vous n'êtes pas sauvés. Et parfois, il y a des doctrines comme ça, hein, qu'ont des vrais chrétiens, ils croient certaines choses, heureusement qu'ils ont tort. Parce que s'ils auraient eu raison, ben, personne ne serait sauvé. Alors, il faut distinguer entre les Corinthiens et quelqu'un d'aujourd'hui qui dit la résurrection, parce que nous avons maintenant une parole prophétique qui nous parle de ça. C'est la lettre ici. À l'époque, ils n'avaient pas encore ça. Mais vous voyez, j'espère, la nuance que fait Paul en priorisant les vérités. Il y a des vérités par lesquelles vous êtes sauvés, et puis il y a toute une série de vérités qui découlent de celles-ci. C'est pour ça, encore des chrétiens, des vrais chrétiens, mais ils ont même des doctrines qui, on va dire, qui clochent, qui harmonisent pas avec l'évangile qu'ils professent. Si vous vous trompez sur certaines vérités, vous n'êtes pas sauvés. Mais nous voyons malheureusement qu'il y a des vrais chrétiens qui peuvent croire et enseigner des erreurs qui sont en contradiction même avec l'évangile qui les sauve. Et d'où viennent ces erreurs? Paul pose la question, Galates, il dit en Galates 3, verset 1, Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez point à la vérité? Écoutez ce que Jésus a dit à une de ses églises, celle de Thyatire, en Apocalypse 2, 19 et 20. Il parle, c'est une vraie église. Hein. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières, ce sont toutes des très bonnes choses, n'est-ce pas? Voyez le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit quoi? Prophétesse, enseignée et quoi? Séduire les serviteurs. Vous voyez l'évaluation mitigée que fait Jésus-Christ. Il y a des très bonnes choses pour cette église. Et je suis content de le dire. Mais il y a quelque chose, j'ai quelque chose contre toi. Tu promets à soi-disant prophétesse d'enseigner et de séduire mes serviteurs au sein même de l'église. Et c'est ça le problème quand on regarde les églises autour de nous. Ce mélange du bon et du mauvais, je crois que c'est la plus grande difficulté quant à l'évaluation doctrinale d'un ministère. Si on pouvait seulement dire, ben, tout ça, ça vient du diable, ça serait facile. Mais on ne peut pas non plus dire, ben, tout vient du Saint-Esprit, parce qu'il y a des bonnes choses. L'évaluation est souvent mitigée. Alors, comment savoir l'importance de la doctrine? Et je crois que la réponse à cette question se trouve dans les conséquences qu'elle a sur l'évangile. Il y a des erreurs qui ont très peu de conséquences sur l'évangile. Et donc on peut se permettre une différence même dans la même église. Mais notez ce que Paul dit concernant la doctrine de la résurrection des croyants. Il dit, si vous croyez cela, verset 13, eh bien, Christ n'est pas ressuscité, verset 14. Et donc notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine. C'est-à-dire, il y a tout ce que dit la Bible est important, mais il y a des enseignements qui sont tellement importants que si on les nie, on rend vain même toute la prédication et tout ce que dit la Bible. Pierre, en 2 Pierre 3, 16, par des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des écrits de Paul, hein, peut-être celui-ci, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Il y a des doctrines qui vont créer une ruine dans l'Église. Ils vont ruiner eux-mêmes et d'autres personnes. Et je crois que si vous tordez le sens de 1 Corinthiens 12, 13 et 14, vous allez créer une ruine dans l'Église. Par exemple, j'ai tapé sur Internet la question « Comment recevoir le Saint-Esprit ?» Quelqu'un m'a dit aujourd'hui que l'Internet est toujours correct. Peut-être c'est moi qui l'ai dit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Voici une des premières choses que j'ai trouvées sur un site évangélique. Avant de nous communiquer le Saint-Esprit, Dieu nous demande quatre choses. De nous repentir, d'avoir la foi, de nous faire baptiser et de nous faire imposer les mains. Si une personne ne suit pas ces quatre étapes, elle ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Okay? Je crois que Paul dirait, s'il faut vous faire imposer les mains, pour recevoir le Saint-Esprit, notre prédication est donc vaine et votre foi est vaine aussi. Donc, le verset 3, 1 Corinthiens 12:3 nous donne la doctrine de la cohérence ou de l'homogénéité de la foi chrétienne avec la puissance divine. C'est-à-dire que tout ce que fait le Père, le Fils, le Saint-Esprit est homogène à tout ce que le Saint-Esprit a inspiré dans les saintes pages de la Bible. Il y a une cohésion entre la Bible, ce que l'Esprit dit dans la Bible, et ce que l'Esprit fait. Voilà, je vais sauter dans cette deuxième chose, le moyen d'évaluer la valeur d'un don de l'Esprit. Et donc, quand on parle de ces questions doctrinales, je ne pense pas qu'il faut dire que tout ça vient du diable. Il faut être prêt à avoir une réponse mitigée. Mais il faut dire, mais franchement, mon ami, si vous êtes présent, quel impact est-ce que cette doctrine aura sur l'évangile? comme ça qu'il faut aborder ces questions. Est-ce qu'il y a moyen d'évaluer la valeur d'un don de l'esprit? Là, je crois que c'est le test social ici. C'est clair que le chapitre 13 continue dans le même sujet des dons de l'esprit. Regardez le chapitre 13. Hein, Corinthiens 13, c'est le chapitre de l'amour. Mais en fait, c'est un chapitre qui parle des dons de l'esprit. Il dit, le premier verset, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. » Donc, il parle ici, c'est un vrai don suivi, à chaque fois, il y a trois choses ici. Un vrai don suivi d'une hyperbole. Une exagération exprès. Ici, le don de parler des langues d'hommes, ça c'est un vrai don. Et puis, pour effet, il dit, même si tu parlais de langue des anges. Regardez verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, c'est encore un autre don, n'est-ce pas? Voici l'exagération, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Nous savons qu'aucun prophète n'avait toute connaissance. Il dit, quand j'aurai même la foi, encore ça c'est un autre don dans la liste du chapitre 12. Mais là, l'exagération maintenant, jusqu'à transporter les montagnes. Verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, le don de donner dans la liste de dons de l'esprit en Romains 12. Mais voici maintenant l'exagération, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Donc voici, il y a quatre dons. Okay? Don de parler d'autres langues, don de la prophétie, don de la foi, don de la générosité. Quatre dons. Mais avec tous ces dons, j'ai le don. Mais si je n'ai pas l'amour, je suis pour quoi? Je suis rien. Je suis rien. Il parle ici de la source, il parle plus ici de la source de la puissance, mais de la valeur qu'a votre don aux yeux de Dieu. Devant Dieu, vous et votre don surtout, ne vaut absolument rien. Et bien sûr, c'est soi-même qu'il faut juger. Mais ne dites pas que nous sommes incapables d'évaluer l'amour des autres. Parce que l'amour est visible. L'amour est visible. Regardez par exemple 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut voir la patience? Mes parents, ils sont plutôt patients. Je sais, je n'ai aucune idée, je n'arrive pas. Tout en vous dire. La patience est tellement invisible, c'est quelque chose que. Peut-être ils sont très patients, peut-être ils sont très impatients, mais je n'ai aucune idée, c'est quelque chose d'invisible. Est-ce qu'on peut ressentir la patience ou l'impatience dans quelqu'un d'autre? Oui, je crois que oui. Il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point. Est-ce qu'on peut voir ça? Quelqu'un se vante ou non? Oui. Il ne semble point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Est-ce qu'on peut évaluer ça? Oui, il ne cherche point son intérêt. Est-ce qu'on peut voir quand quelqu'un cherche son propre intérêt? Je crois que oui. S'il ne s'irrite point, est-ce qu'on peut voir ça? Alors, si l'amour est quelque chose de caché, on ne pourrait pas le voir. Mais le message de ce chapitre, en fait, est que l'amour se démontre. C'est ça le message, l'amour se démontre. Et donc, on peut, d'une certaine façon, évaluer l'amour. Nous savons que Dieu nous aime parce qu'il a fait quelque chose, il a envoyé son Fils. Le samedi 21 mars 2015, un article est sorti pour dire que le pasteur Creflo Dollar, vous savez ce nom peut-être, il a retiré sur pression médiatique la demande qu'il avait faite sur son site de l'Église. La semaine auparavant, le pasteur Dollar, et ce n'est pas un lapsus révélateur, c'est son vrai nom, a demandé à son église évangélique de plus de 10 000 personnes à l'aider à acheter un avion privé. Un avion privé, c'était pas ce qui choquait, il avait déjà de l'emplacer. Le problème, c'est que l'avion qu'il voulait acheter coûtait 67 millions de dollars. C'était un avion haut de gamme. Et il disait ceci, nous sommes en train de demander aux membres soutiens et fidèles de ce ministère, que ce qui soutient fidèlement ce ministère de nous aider à acquérir cet avion dans le signe du G, soit 650, pour que le pasteur Cretlo et sa femme Taffy et World Changers Church International puissent continuer à propager l'évangile de la grâce dans le monde. Voilà. On l'a critiqué, sa première réponse, c'était que Dieu m'a dit que j'ai besoin de cet avion. Bon, le pasteur Dollard gagne 4 millions d'euros par an. Sa richesse, 4 millions d'euros par an. Sa richesse est estimée à plus de 27 millions d'euros. Heureusement, il a retiré la demande, il va acheter un autre un peu moins cher. Un autre nom peut-être plus connu, Joyce Myers, a un patrimoine estimé à 25 millions de dollars, ce qui n'inclut pas le patrimoine de son mari, parce qu'elle a employé son mari aussi, dans son ministère. Néanmoins, si vous désirez l'entendre quand elle vient à Paris le 8 mai, vous serez obligé de payer 25 euros pour le privilège d'entrer dans la salle. 25 euros. Et ils attendent presque 15 000 personnes. 25 fois 15 000, ça fait plus que j'ai. Il y a des gens qui vous diront, un scandale, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Ok? Vous pouvez me dire ça après. Mais Jésus a dit à ses 12 apôtres, notez bien le contexte des signes miraculeux, Matthieu 18, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. L'évangile ne se vende pas. Bon, on peut payer les frais de quelqu'un, mais c'est différent. Les vrais miracles n'étaient jamais à vendre. Pierre a dit à Simon, qui voulait croquer la puissance du Saint-Esprit contre de l'argent, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Donc si le don de Dieu ne peut pas être reçu à prix d'argent, c'est encore plus grave de le vendre à prix d'argent. Mais il y a beaucoup d'églises qui vendent la puissance de Dieu. Si vous voulez l'onction que j'ai, ben, il faut payer, il faut mettre l'argent pour vendre la puissance de Dieu. Je crois qu'il y a un moyen d'évaluer la valeur d'un don de l'esprit par la démonstration de l'amour tel qu'il est décrit en 1 Corinthiens 13. Bon, peut-être qu'il a un don, mais si ça a une valeur aux yeux de Dieu, ça va être démontré comme on le voit en 1 Corinthiens chapitre 13. Et puis je termine donc avec ça, le moyen d'évaluer la légitimité d'un don de l'esprit. Ici nous trouvons la fin de ce discours, la conclusion, regardez chapitre 14 et verset 37. Il est si, 1 Corinthiens 14, 37, hein, si quelqu'un croit être prophète, donc il a ce don, il croit qu'il a ce don, on est dans le contexte des dons, ou spirituel, donc il a un autre don de l'esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est quoi? Est un commandement du Seigneur. Vous vous rappelez les trois tests d'un Jean? Le test théologique, est-ce que je crois au Fils de Dieu? Donc ça c'est le test. Est-ce que tout ce qui se passe est homogène à ce que dit la Bible, enseigne la Bible? Le test social, est-ce que j'aime les enfants de Dieu? Est-ce que ces dents sont fixées dans une façon qui est quand même en accord avec 1 Corinthiens 13? Et verset 37 est en phase avec le troisième, le test moral, est-ce que j'obéis aux commandements de Dieu? Si quelqu'un croit être prophète, et encore dans le domaine des dons de l'esprit, hein, des dons et des dons de la prophétie. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui sont convaincus qu'ils sont des prophètes. Il y a très bien, si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, parce qu'il parle en langue de choses, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. C'est-à-dire, tout vrai prophète, il va recevoir les écrits de Paul comme s'ils étaient les paroles mêmes de lui, de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Car il le sent. Le danger avec une Bible qui met les paroles de Jésus en rouge, vous avez vu ces Bibles? Où les paroles de Jésus sont en rouge? Qui a vu ce type de Bible dans les évangiles? Je dis que ce n'est pas mauvais, je ne dis pas que c'est mauvais, mais le danger, Ça peut donner l'impression que ce qui est en rouge, c'est vraiment important. Ce qui est en noir, c'est un peu moins important. Mais Paul dit, non, ce que je vous écris dans cette lettre doit être reçu comme étant rien de moins qu'un commandement du Seigneur. Vous devez le mettre en rouge. C'est Jésus qui parle ici. Vous voulez que Jésus vous parle? Eh bien, il vous parle à travers Paul. Vous voulez une prophétie? Ben, vous l'avez eue. Vous avez eu dans votre main, 1 Corinthiens est une prophétie donnée par le Seigneur Jésus. La voix de Paul dans le Nouveau Testament est la voix de nul autre que le Fils de Dieu. Alors, je termine avec cette illustration. Rappelez-vous ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vu des choses, n'est-ce pas? Ils ont vu des miracles. Ils ont senti le surnaturel. Et Paul, Pierre. Il était tellement charmé qu'il veut rester là, il propose de construire 3 temps, vous rappelez? Un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Et Matthieu, verset 17, et chapitre 17 et verset 5, dit cela. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Il enlève dans ce phénomène miraculeux, il enlève le miracle. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. C'est-à-dire, Dieu enlève tout ce qui peut être vu de l'œil. Parce qu'ils sont dans une nuée. Et le remplace par des paroles. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et voici l'ordre divin qui vient directement du ciel. C'est quoi l'ordre divin? Écoutez-le. Écoutez-le. Ça, c'est l'impératif. Et selon la Bible elle-même, si nous voulons obéir à ce commandement, écoutez-le, nous devons écouter toi. Dieu dit, écoute mon fils. Et Paul dit, quand je parle, ne fuis pas. Entendez la voix de Dieu qui vous dit, écoutez Christ, écoutez Paul, écoutez ce que vous dit le Nouveau Testament, lisez la Bible est la révélation de l'Esprit. Et un ministère qui veut se conformer donc à ce que Dieu dit, écoutez mon fils, va se conformer donc à cette révélation écrite dans la Bible. Alors que Dieu nous donne donc le discernement de la comprendre, un cœur pour l'aimer, et puis la soumission nécessaire pour l'obéir. Voilà, merci. C'est long, mais j'ai terminé.